Mardi 24 septembre 2024. Donc, c'est notre première séance consacrée à la lecture d'Esprit des lois de Montesquieu, paru la première fois en 1748. Alors, vous pouvez trouver cette œuvre dans deux collections de poche, Garnier Flammarion ou Folio. Là, j'ai le premier tome en folio. Il y a deux tomes. Il y a deux tomes aussi en Garnier Flammarion. Et puis, vous pouvez aussi trouver une anthologie dans la collection Garnier Flammarion avec un choix de texte, une présentation par Denis de Casablanca. Alors, c'est la première fois en 18 ans que nous reprenons la lecture d'une œuvre, puisque nous avions déjà lu l'Esprit des lois il y a 14 ans, lors de la saison 2010-2011. Bah. Donc, j'imagine que le souvenir est assez lointain, mais indépendamment de ça, moi, j'ai trouvé utile et je trouve nécessaire de relire les œuvres. Parce que jusqu'à présent, on a changé tous les ans. Et je me suis même efforcé de lire des œuvres que, ma foi, je connaissais d'assez loin. Alors là, je me suis dit, bon, allez, on va un peu se reposer. Enfin, je sais pas que je me repose avec Montesquieu, hein. Mais, on ne peut jamais d'abord prétendre en faire le tour. C'est une grande œuvre qui mérite d'être lue, relue, comme toutes les grandes œuvres. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va retravailler sur la question, en reprenant aujourd'hui sa lecture. Et d'ailleurs, quand je lis l'œuvre, j'ai toujours l'impression de redécouvrir. Alors, cette reprise aura au moins un avantage. Il sera cette fois plus facile d'envisager un parcours d'ensemble et pour souligner les points forts, sans se noyer dans des difficultés. Si vous voulez, j'aurai une idée plus précise, hein, de la progression que nous devons accomplir. Ce qui n'était pas le cas la première fois. Il y aurait des choses que je ne referai pas, si vous voulez, je ne le ferai pas de la même manière. Alors, par ailleurs, l'esprit des lois a l'intérêt de nous ouvrir à un grand nombre de questions, à commencer par, bien sûr, la question de la liberté, surtout la liberté politique, la justice, le droit, la politique en tant qu'art de gouverner, l'histoire, la religion, le commerce, la diversité des cultures, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, avant d'engager la lecture, je voudrais dire d'abord quelques mots sur les idées préconçues qu'on a sur Montesquieu. Je commence par là, parce que il va falloir les mettre de côté, si vous voulez. Et ensuite, forcément, je serai obligé un peu de le faire, je présenterai l'auteur en donnant quelques indications biographiques et historiques. Alors, je les ai déjà données à ceux qui étaient là à l'Assemblée générale, mais je suis obligé de les reprendre tout de même. Alors, quelles sont les idées préconçues qu'on a sur Montesquieu? C'est un philosophe qu'on cite volontiers. Hein, alors, ça fait très bien de citer Montesquieu, mais en général, on lit assez peu son ouvrage, L'Esprit des lois. Et finalement, Montesquieu est très mal connu, assez peu connu. On cite toujours, on résume toujours Montesquieu aux mêmes extraits, dont on tire des conclusions souvent schématiques et tout à fait discutables. Je vous en donnerai un exemple. On retient surtout de lui son célèbre chapitre sur la Constitution d'Angleterre, que nous lirons au chapitre 6 du livre 11, pour conclure que Montesquieu est un philosophe libéral, qu'il tient la Constitution de l'Angleterre pour un modèle et qu'il propose une réforme de la monarchie française sur ce modèle. Voilà ce qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est dans ce chapitre, c'est de ce chapitre qu'on croit pouvoir tirer le principe de la séparation des pouvoirs, dont on attribue la paternité à Montesquieu. Vous avez tous entendu parler de Montesquieu et la séparation des pouvoirs. Et vous l'entendez sans arrêt. Et comme nous le verrons d'ailleurs en lisant la préface de l'Esprit des lois dès ce soir, eh bien Montesquieu nous met en garde contre ce genre de lecture, qui ne tient pas compte de l'ensemble de son œuvre. Or, si on lit bien, Montesquieu ne fait pas de la Constitution d'Angleterre un modèle. Car tout simplement, il n'y a pas de modèle pour lui en politique. Il n'y a pas de modèle qu'on pourrait appliquer à toutes les nations. Et on aura l'occasion de comprendre pourquoi. Par ailleurs, Montesquieu ne parle pas de séparation des pouvoirs, sauf pour le pouvoir judiciaire, qui doit être séparé des deux autres, le législatif, l'exécutif, pour rendre la justice. Et quant aux deux autres pouvoirs, donc le législatif et l'exécutif, eh bien, bien loin d'envisager leur séparation, c'est-à-dire une indépendance stricte l'un à l'égard de l'autre, eh bien, bien loin d'envisager une séparation, Montesquieu déclare au contraire que ces pouvoirs doivent être liés, qu'ils doivent être liés et enchaînés, comme dans un mécanisme d'horlogerie, de telle sorte qu'ils se fassent contrepoids, pour qu'un pouvoir n'abuse pas, pour éviter qu'il devienne tyrannique. La solution, c'est de lui opposer un autre pouvoir qui puisse lui résister. Vous voyez, pour que ces pouvoirs s'opposent, il ne faut pas qu'ils soient séparés. Il faut qu'ils soient liés. Ah, mais sinon, il n'y a pas d'opposition. Si les pouvoirs sont strictement séparés et indépendants l'un de l'autre, ils ne peuvent pas agir l'un sur l'autre. Donc, vous voyez que l'idée d'une séparation est un contresens en un sens. Les pouvoirs ne peuvent s'opposer que parce qu'ils sont en liaison. Alors, au sens précis du terme, donc, vous ne pouvez pas dire que Montesquieu est l'auteur, au fond, du principe de séparation des pouvoirs. Et en décrivant la Constitution d'Angleterre, il ne parle pas de séparation, il parle plutôt de distribution des pouvoirs. Il faut que les pouvoirs soient distribués dans des mains différentes. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que l'exécutif et le législatif se trouvent dans les mêmes mains. Alors, c'est vrai que moi, dans la vie courante, je vais aussi parler de séparation des pouvoirs, hein, si vous voulez. Mais il faut que je sache, il faut que je me rappelle que, au sens strict du terme, il ne s'agit pas d'une séparation du pouvoir. C'est une manière de parler, si vous voulez. Le vrai danger, hein, pour Montesquieu, c'est ce que nous verrons, c'est que le même homme ou le même groupe détienne entre ses mains et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, vous voyez, il faudra plutôt parler d'une distribution des pouvoirs, d'un équilibre des pouvoirs. Alors, vous voyez que cet exemple montre qu'on se contente bien trop souvent d'une idée sommaire de ce que dit Montesquieu, ou aussi on le fige beaucoup trop souvent sous la figure d'un grand juriste constitutionnel, d'un haut magistrat, alors que, comme nous aurons l'occasion de le voir, le droit constitutionnel ne peut pas être abordé, selon lui, selon une approche strictement juridique. On ne peut pas aborder le droit uniquement de façon autonome. On ne peut réfléchir sur le droit qu'en rapport avec d'autres facteurs, avec l'histoire, avec les mœurs du pays, etc., etc. Mais on ne peut pas parler du droit indépendamment. Donc une réflexion, enfin, vous voyez, une approche purement constitutionnaliste de l'œuvre de Montesquieu est un contresens. Et c'est pourtant comme ça qu'on l'envisage, le plus souvent. Donc, vous voyez que, si on veut lire l'esprit des lois, il faut d'abord prendre quelques distances à l'égard des idées préconçues, qui sont le plus souvent répandues sur Montesquieu, et puis vraiment le lire progressivement en cherchant à bien comprendre sa démarche. Alors maintenant, abordons la biographie de Montesquieu en le situant dans son époque. Alors, il vit essentiellement dans la première moitié du XVIIIe siècle en France. On le considère comme le premier grand philosophe des Lumières. Premier grand philosophe français des Lumières. Voltaire est de la même génération, il a 5 ans moins que lui. Quant à Diderot et Rousseau, qui sont les deux autres grands philosophes de ce XVIIIe siècle, ils sont d'une autre génération, puisqu'ils sont plus jeunes que lui de 24 et 23 ans, vous voyez, pour situer les choses. Alors, je vous ai photocopié des repères biographiques pour situer sa vie et son œuvre. Hein, vous pourrez en disposer, ce sera utile. Je vais à l'essentiel, mais je crois qu'il faut tout de même en parler. Hein. Montesquieu est né en janvier 1689. Il est mort en janvier 1755, à 66 ans. Charles-Louis de Ségonda, c'est ça son nom vraiment, Charles-Louis de Ségonda, c'est ainsi qu'il s'appelle au départ. Il ne s'appelle pas Montesquieu dès le départ, vous allez voir. Charles-Louis de Ségonda naît exactement le 16 janvier 1689 dans une famille de la noblesse de Rome, au château de la Brède, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. C'est un charmant petit château que l'on peut visiter. Je vous recommande la visite. Oh, je ne suis pas payé. Hein. Alors, donc, je le disais, il ne s'appelle pas tout de suite Montesquieu. Il portera ce nom seulement en 1716, à la mort de son oncle, dont il héritera du nom, ainsi que de la charge de président à Mortier. Alors, c'est assez étrange comme appellation, président à Mortier. Le Mortier, c'est une coiffure de cérémonie. Donc, il est président à Mortier au Parlement de Bordeaux. Et il aura alors 27 ans. Sa famille appartient donc à la noblesse de Rome, c'est-à-dire celle des magistrats, moins prestigieuse que la noblesse d'épée, qui est en principe plus ancienne et qui est d'origine militaire. Très tôt, le futur Montesquieu est marqué par la mort prématurée de sa mère. Il est élevé d'abord parmi les paysans de la Brède, non loin du château, et il parle d'abord le gascon avec les enfants de son âge, comme ce fut d'ailleurs le cas de Montaigne, qui vécut une centaine d'années auparavant dans une région voisine. Et à cette époque, le culte de l'enfant n'existe pas. Dans les milieux aristocratiques, l'enfant en bas âge est élevé d'abord par des nourrices. Il voit assez peu ses parents. Il est donc élevé parmi les paysans de la Brède, jusqu'à ce que ses parents s'installent à Bordeaux. Et en 1700, il a alors 11 ans, ses parents l'envoient au collège des oratoriens de Juilly. Alors, les oratoriens, c'est un ordre ecclésiastique. Vous savez qu'à l'époque, l'éducation était essentiellement l'affaire des ordres religieux. Un ordre assez ouvert. Hein. Il y avait les jésuites, hein, qui avaient une importance considérable, mais là, ce sont les oratoriens. Dans la région parisienne, et l'enseignement de ce collège, pour l'époque, est assez moderne, puisque, outre l'enseignement des langues anciennes, on y apprend également les langues vivantes. Ça, c'est assez rare. On y dispense des cours de français, on y apprend l'histoire, la géographie, les mathématiques. Et lors de ses études à Juilly, le jeune Charles-Louis de Ségonda rédige en latin une histoire romaine retraçant l'histoire de Rome, des origines jusqu'à l'Empire. Et puis aussi, il conçoit une tragédie. À l'époque, vous savez, on écrivait en latin. Ah oui. Et même jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait des doctorats en latin. Alors, en 1705, il revient à Bordeaux étudier le droit. Il est reçu avocat au Parlement en 1708. Il fait un long séjour à Paris, de 1709 à 1713, pour perfectionner sa formation. Mais après la mort de son père en 1713, il doit revenir à Bordeaux et il devient conseiller au Parlement de Bordeaux en 1714. Alors, il faut ici rappeler que les parlements en France, sous l'Ancien Régime, sont des cours souveraines qui ont un poids important. Leurs membres jouissent de nombreux privilèges et les charges sont vénales. Elles appartiennent de fait à un petit nombre de familles. Et bien qu'ils ne fussent en rien des assemblées politiques élues, les parlements prétendirent jouer un rôle politique après la mort de Louis XIV, en 1715. C'est vrai que les parlements avaient été bridés sous Louis XIV, grand monarque absolu. Et avec la régence, une certaine libération s'effectue, les parlements reconquièrent un peu de leur autonomie, et ils firent fréquemment opposition au pouvoir de Louis XV, du roi Louis XV, qui va succéder à Louis XIV à peu près dans 1723, je crois, enfin, 700, bon, je ne sais plus exactement, mais enfin dans ces eaux-là. Les parlements vont s'opposer surtout aux intendants de province, c'est là pour récolter les taxes. Et vous savez bien que la Révolution française, elle a commencé par une réaction des parlements, à propos toujours des impôts, les taxes. Alors, vous aurez compris, évidemment, que Charles-Louis de Secondat est un privilégié. Son rang et sa fortune n'ont d'abord rien à faire avec son mérite. Ce qu'il possède, il le possède d'abord par sa naissance. Alors, en 1715, il a 26 ans, mort de Louis XIV. Il épouse une riche calviniste, Jeanne de Lartigue, pourvue d'une belle dot. C'est important. Et alors, on dirait, putain, épouser une protestante, enfin, c'est pas vrai. Ben oui, mais il y avait déjà des alliances protestantes dans sa famille. C'est une région, la Guyenne, qui avait été drôlement secouée, du temps de Montaigne d'ailleurs, par les guerres de religion. Alors, ils auront trois enfants. L'année suivante, il hérite de son oncle. Et non seulement il hérite du nom de Montesquieu, de la charge de président à Mortier, mais aussi de nouvelles terres à ajouter à celles qu'il a reçues en dot par son mariage avec Jeanne de Lartigue. Alors, Montesquieu est surtout riche par ses propriétés viticoles. C'est un vigneron, producteur d'un Bordeaux de qualité, un grave. Et il surveille très attentivement son domaine, ses récoltes. Et lorsqu'il n'est pas à la brette, ce qui lui arrive tout de même assez souvent, c'est sa femme qui se charge très efficacement de la gestion des affaires. Alors, vous allez peut-être me poser la question, et ses amours ? Parlez-nous de ses amours. Le mariage avec Jeanne de Lartigue, c'est un mariage de raison, tout de même. Bon. Et Montesquieu est assez discret sur sa vie amoureuse. C'est un galant homme, assez enjoué, un bel esprit, habitué au salon parisien, comme on va voir. Il a quelques maîtresses dans le grand monde, mais il est très discret. Il n'en parle pas beaucoup. Donc, le chapitre est clos. Il est élu à l'Académie des sciences de Bordeaux en 1716. Alors, en sa qualité de membre de cette académie, il rédige un nombre considérable de travaux portant sur des sujets extrêmement variés. Alors, j'en cite quelques-uns. Il s'intéresse par exemple aux causes de l'écho, aux glandes rénales, à la pesanteur des corps, au flux et au reflux de la mer, aux variations de l'aiguille aimantée. Il s'intéresse à tout. Il s'interroge sur les causes de l'éclair et du tonnerre. Il étudie la mousse des chênes. Il publie un discours sur Cicéron, le grand orateur politique de Rome, de la République romaine. Il s'intéresse à des sujets de législation. Donc, vous voyez qu'il s'occupe aussi bien d'anatomie que d'astronomie, de droit que d'histoire. Et avant même l'existence de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont les premières publications paraîtront en 1751, eh bien on peut dire que Montesquieu est un esprit encyclopédiste. Il fait de fréquents séjours à Paris dans les années 1720, où il est introduit dans les milieux scientifiques et littéraires. Il y rencontre des écrivains comme Fontenelle et Marivaux. Il fréquente les salons et il devient extrêmement célèbre après la parution en 1721 de ces fameuses lettres persanes. Alors elles sont publiées anonymement à Amsterdam. À l'époque, c'était courant. Mais on sait très vite que Montesquieu en est l'auteur. Et évidemment, comme vous le savez, les lettres persanes sont un court roman épistolaire dans lequel deux persans, Usbek et Rika, viennent visiter Paris et jugent les institutions et les mœurs françaises du point de vue de leur regard d'étranger. Et sous cet éclairage, eh bien, elles se révèlent souvent grotesques, ridicules. Et ces lettres persanes sont aussi une satire de la monarchie absolue de Louis XIV. On ne s'y trompe pas. Alors, vous voyez, ces fameuses lettres persanes irritent au plus haut point les autorités politiques de l'époque, notamment le cardinal Fleury, qui deviendra ministre du jeune roi Louis XV, en 1723. Il sera vraiment très, très en colère. Alors, sa fonction de magistrat au Parlement de Bordeaux intéresse assez peu Montesquieu. Et sur ce point encore, il ressemble à son aîné Montaigne, qui, dès qu'il hérita de son père, quitta sa charge de magistrat au Parlement de Bordeaux et vint s'établir dans son château pour y consacrer du temps à la réflexion, tout son temps à la réflexion. Eh bien, c'est la même chose pour Montesquieu. C'est la même chose. Pour continuer à mener ses études librement, eh bien, lui aussi vend sa charge de président à Mortier en 1726. Et évidemment, sa fortune et ses activités de vigneron le lui permettent. Le lui permettent même très largement. En 1728, il est élu à l'Académie française, malgré l'opposition du cardinal Fleury, qui lui en veut. Mais de façon assez cavalière, aussitôt, à peine est-il nommé, qu'il entreprend aussitôt un long périple en Europe, de 1728 à 1731, trois ans, pour observer les institutions et les mœurs des autres nations. Alors, il va à Vienne, traverse l'Autriche, la Hongrie, où il visite les mines du Harz, à propos desquels il fait des observations sur le travail des mineurs, sur les conditions de travail des mineurs, c'est important. Il se rend en Italie, à Venise, à Turin, à Rome, à Naples, et à chaque fois, il étudie le fonctionnement des régimes politiques qui sont en place, et il étudie ainsi les institutions politiques de la République de Venise. À Rome, il s'initie au chef-d'œuvre artistique de la ville, il va en Prusse, à Berlin, où il analyse le despotisme prussien, il va en Hollande, qui est une république, puis il termine son voyage en Angleterre, où il va séjourner un an à Londres. Et c'est là, évidemment, qu'il va étudier attentivement la constitution d'Angleterre, qui est née en 1688 de ce qu'on a appelé la « Glorious Revolution », c'est-à-dire c'est la deuxième révolution anglaise qui renverse le roi catholique Jacques II et qui permet au Parlement anglais de faire venir au trône Guillaume d'Orange, qui est un prince hollandais, qui était marié à une des filles de Jacques II, mais qui était, elle, protestante. Et cette révolution permet d'établir une monarchie constitutionnelle dont Montesquieu étudie le fonctionnement dans le fameux chapitre 6 du livre 11. Alors à Londres, Montesquieu est reçu comme membre de la Royal Society, excusez-moi pour l'accent. Il assiste à une séance des communes, parce qu'il y a deux chambres Hein, il y a le Parlement, enfin le pouvoir législatif est divisé en deux chambres. Il y a la chambre des lords, aristocrate, chambre des communes. Et ce partage de pouvoir législatif, donc il assiste à une séance de la chambre des communes. Il est initié à la franc-maçonnerie qu'il va importer en France, à Bordeaux. Et de retour à la Brède, en 1731, et après un bref séjour à Paris en 1734, il se consacre essentiellement à son œuvre. Et je ne peux pas citer tous les ouvrages qu'il a écrits, bien sûr, mais parmi bien d'autres ouvrages, il publie des réflexions sur la monarchie universelle en Europe. Et surtout, en 1734, il publie les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, qui offre déjà un avant-goût du travail qui sera celui de Montesquieu dans l'esprit des lois. C'est un texte important. Et surtout, bien sûr, pendant 20 ans, il va s'atteler à la composition de l'esprit des lois, qui est bien sûr son œuvre principale, qu'il va publier la première fois en 1748. Et dès lors, toute son énergie est consacrée à cette tâche. Et comme il devient aveugle, en raison d'une cataracte, il doit dicter sa pensée à des secrétaires, et il va en épuiser 30. Alors, si vous visitez le château de la Brède, vous verrez, c'est un petit château, hein. Il travaille dans une salle assez obscure, son bureau est dans cette salle, avec la cheminée, et puis à côté, vous avez une petite chambre où se trouve, vous avez le lit du secrétaire. Et alors, comme Montesquieu travaille à n'importe quelle heure, la nuit, le jour, il réveille tout simplement son secrétaire pour lui demander de copier ce qu'il lui écrit, de ce qu'il lui dicte. Et évidemment, à ce rythme-là, les secrétaires, ils ne durent pas longtemps, ils s'en vont. Alors, il est aidé dans cette tâche aussi par sa fille préférée, qui s'appelle Denis, je crois. Bon, mais vous voyez que toute sa vie, à la fin de sa vie, est consacrée, au fond, à la rédaction de son ouvrage. Alors, il publie un dernier écrit, mais après sa mort, enfin, son dernier écrit s'appelle « L'essai sur le goût » est publié après sa mort en 1757, et il va paraître comme article dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mais c'est 2 ans après sa mort, puisqu'il meurt en janvier 1755 à Paris, l'année même du tremblement de terre, du fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui va tant émouvoir ses contemporains. Vous savez que c'est un tremblement de terre qui va défrayer la chronique. Hein. Et l'année même aussi de la publication du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, pour situer les choses. Alors voilà ce qu'il en est, hein, de la biographie de Montesquieu. Alors maintenant, abordons l'œuvre, abordons la lecture de l'Esprit des lois, et vous avez avec vous la préface. Puisque le plus simple et le plus judicieux, c'est de lire, en effet, cette préface qui présente le projet de Montesquieu et annonce la démarche qui va être la sienne. Alors, pour ceux qui étaient déjà adhérents, j'ai envoyé quelques extraits de cette préface par Internet pour un peu stimuler la lecture. Hein. Mais là, aujourd'hui, je vous la communique en totalité. Vous avez le texte de la préface en totalité, avec quelques petits extraits en plus de la défense de l'esprit des lois. La défense de l'esprit des lois, c'est un texte écrit après la parution de l'esprit des lois pour répondre à des critiques et à des objections d'un certain nombre de lecteurs. Vous avez un petit extrait de la défense de l'esprit des lois, puis vous avez aussi un extrait des pensées. Les pensées, ce sont des textes que Montesquieu écrit de façon un peu disparate, hein, mais qui peuvent être tout à fait éclairants, qui peuvent montrer, qui peuvent un peu éclairer, au fond, la lecture de l'esprit des lois. Bon, alors, donc vous avez tout ça, et puis de l'autre côté, vous avez aussi des extraits d'un essai de Montaigne, l'essai sur la coutume, vous verrez pourquoi, et puis un extrait des Pensées de Pascal. Hein, on aura l'occasion de les regarder, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, on peut discerner quatre étapes dans cette préface. J'aborderai surtout les deux premières. La troisième, je l'aborderai très rapidement. La quatrième, je n'en parlerai pas, faute de temps. On reprendra ça la prochaine fois. Il y a d'abord l'adresse de Montesquieu au lecteur, les deux premiers paragraphes, où il exprime une double crainte. Il craint la censure. Et puis, il craint aussi la mauvaise lecture qu'on risque de faire de son ouvrage. Ensuite, deuxième partie, si vous voulez, il y a surtout l'exposé du projet de Montesquieu, ce qu'il appelle son dessein, dont découle la méthode qu'il va mettre en œuvre pour le réaliser. Et si vous voulez, les paragraphes 3 à 9 constituent cette partie, surtout les paragraphes 3 à 6 qui sont les plus importants. Ensuite, nous comprendrons que la rédaction de l'Esprit des lois est inséparable du projet d'instruire non seulement les magistrats, les législateurs, mais aussi les peuples, en leur permettant, comme dit Montesquieu, de se guérir de leurs préjugés, afin d'avoir une idée juste, du bien qui convient à leur pays. Paragraphe 10 à 14. Là, il est important, par exemple, que les législateurs est une idée juste du bien qui convient au pays dont ils veulent établir les lois, justement pour réaliser de bonnes lois. Et puis, la préface se termine par des considérations sur l'œuvre écrite, où Montesquieu compare son travail de composition à celui d'un peintre. Il cite notamment le peintre italien Corrège. Ce sont les deux derniers paragraphes. Mais, si vous voulez, on n'aura pas le temps d'en parler. On en parlera ultérieurement. Donc, commençons par l'adresse au lecteur. Donc, j'ai dit qu'elle témoignait d'une grande prudence de la part de Montesquieu. Il craint de voir son ouvrage interdit de publication. Et d'ailleurs, ce sera le cas. On sera interdit de publication en France. Et l'Église catholique le mettra à l'index. Oui. Il faut rappeler qu'un bon nombre d'ouvrages à l'époque étaient censurés. Ainsi, pour échapper aux rigueurs de la censure, que pourrait exercer aussi bien le pouvoir politique que les autorités ecclésiastiques, eh bien, Montesquieu tient à montrer qu'il n'est animé d'aucune mauvaise intention. Il veut montrer patte blanche. Hein. Et cela lui paraît d'autant plus nécessaire, sans doute, qu'il a acquis une réputation assez sulfureuse après avoir rédigé ses fameuses lettres persanes en 1721. Elles sont apparues comme un pamphlet contre la société et les institutions de son pays. Ainsi, Montesquieu tient, au premier paragraphe, il tient à affirmer l'attachement qu'il a pour les institutions de son pays. Il se défend d'avoir écrit un ouvrage destiné à les critiquer, à les condamner. Ben, lisons tout simplement ensemble le premier paragraphe. « Si, dans le nombre infini de choses qui sont dans ce livre, il y en avait quelqu'une qui, contre mon attente, pût offenser, il n'y en a pas, du moins, qui y ait été mise avec mauvaise intention. Je n'ai point naturellement l'esprit désapprobateur. » mon œil. C'est pas sûr. Et puis alors, ensuite, il cite un passage. Alors, il n'est pas. Son nom n'est pas cité, mais enfin, vous savez, il s'adresse à des lecteurs qui connaissent très bien la tradition classique, hein, des auteurs classiques. Alors, ils connaissent Plutarque, par exemple, qui a écrit des vies parallèles sur Platon, enfin, sur toutes sortes d'auteurs, si vous voulez. Et là, visiblement, Montesquieu cite Plutarque, sans le nommer, hein, quand il parle de. Quand il parle de Platon, Platon remerciait le ciel de ce qu'il était né du temps de Socrate. Bon, vous savez qui est Platon, hein, le premier grand philosophe qui a écrit plusieurs dialogues, et puis son maître à penser, enfin c'était Socrate. Hein, et Socrate n'a rien écrit, hein, bien sûr. Donc Platon remerciait le ciel de ce qu'il était du temps de Socrate, de ce qu'il était né du temps de Socrate. Et moi, je lui rends grâce de ce qu'il m'a fait naître dans le gouvernement où je vis. Et de ce qu'il a voulu que j'obéisse à ceux qu'il m'a fait aimer. Ah oui, vous allez me dire, oui, il passe la pommade. Oui, bon, d'accord, mais n'oubliez pas tout de même le contexte. Hein. Donc il tient à montrer patte blanche, c'est bien dit. Il cherche manifestement à capter la bienveillance de ses lecteurs. Et évidemment, il veut d'abord créer chez eux une disposition favorable. Bon, mais il ne se contente pas de cela. Puisque, dans le second paragraphe, il veut prévenir aussi une mauvaise lecture de son œuvre. Et là, ce qu'il dit mérite notre attention. Lisons le second paragraphe. « Je demande une grâce que je crains qu'on ne m'accorde pas. C'est de ne pas juger, par la lecture d'un moment, d'un travail de 20 années. » J'ai sué tout de même, non ? D'approuver ou de condamner le livre entier et non pas quelques phrases. Si l'on veut chercher le dessin de l'auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessin de l'ouvrage. Alors il recommande donc à ses lecteurs de lire son livre en entier, de ne pas s'en tenir à une ou deux de ses parties, de ne pas se contenter d'extraits qui mutilent le texte, et qui fige en définitive une image convenue de Montesquieu. Oui, il vous prévient déjà, hein. Et pourtant, qu'est-ce que nous faisons ? C'est exactement... nous faisons exactement ce qu'il nous reproche. Or, vous voyez, donc... et d'ailleurs, il dit ça parce qu'à son époque, effectivement, les lecteurs procédaient souvent de cette façon. Ils attendaient des phrases un peu chocs, et puis lui reprocher volontiers à un auteur telle ou telle phrase, alors sans tenir compte de l'ensemble de l'œuvre. Donc, vous voyez, effectivement, Montesquieu veut éviter ce problème. Or, comme l'indique Montesquieu au paragraphe 8, vous allez directement au paragraphe 8, je les ai numérotés, hein, vous avez ici une remarque, hein, de la part de Montesquieu, qui va dans le même sens. On ne trouvera point ici ces traits saillants qui semblent caractériser les ouvrages d'aujourd'hui, à la mode. Pour qu'on voit les choses avec une certaine étendue, les saillies s'évanouissent. Elles ne naissent d'ordinaire que parce que l'esprit se jette tout d'un côté et abandonne tous les autres. Alors évidemment... Donc l'esprit des lois ne se réduit pas à quelques traits saillants, à des formules chocs que l'on reproduit en boucle. Est-ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des punchlines ? Ah, les punchlines, non. Montesquieu, il n'aime pas ça, les punchlines. Alors évidemment, la pensée de Montesquieu, elle ne passe pas sur BFM. Ah, c'est clair. Dans une interview, vous avez 2 secondes pour répondre. En 2 mots, monsieur Montesquieu. Enfin, en 2 mots, c'est difficile. Hein. Donc, c'est bien sûr pour lui une lecture très superficielle qui ne permet pas de comprendre le véritable projet de Montesquieu, son dessein, comme il dit. Donc, pour pouvoir juger de son ouvrage, travail de 20 années, il faut le lire en entier et s'armer de patience. Et pour justifier d'ailleurs cette exigence d'intégralité qui doit être celle de la lecture, Eh bien, Montesquieu recourt à la métaphore de la chaîne que vous voyez au paragraphe 7. Regardez bien, paragraphe 7, je lis ce passage. « Ici, bien des vérités ne se feront sentir qu'après qu'on aura vu la chaîne qui les lie à d'autres. Hein, » vous avez vu ce passage. Alors, c'est important, ça. Donc, qu'est-ce que nous dit Montesquieu ? Il dit qu'il faut lire patiemment l'œuvre en son entier, pour saisir les vérités qui sont énoncées, et afin de découvrir les liens qu'elles ont avec les autres vérités. C'est-à-dire que des vérités isolées ne sont pas des vérités. Une vérité ne peut pas être isolée. Les vérités ne sont telles que par leur enchaînement avec les autres. Vous voyez, une vérité ne peut pas valoir toute seule. Elle n'est validée que par son enchaînement avec les autres. Alors on pourrait dès lors s'attendre à ce que l'esprit des lois soit un exposé linéaire, rigoureusement déductif, par lequel Montesquieu s'applique à montrer une par une chacune des vérités en déployant progressivement la chaîne qui les lie les unes aux autres. On pourrait s'attendre à ça. Or, quel n'est pas notre étonnement, après avoir insisté sur la nécessité de tenir compte de l'ensemble de l'œuvre pour saisir sa cohérence, après avoir insisté sur l'enchaînement des vérités que contient cette œuvre, eh bien, il indique qu'il s'est refusé à développer tous les détails de son raisonnement. Regardez avec moi. Paragraphe 7, juste après le passage que j'ai lu là. « Ici, bien des vérités ne se feront sentir qu'après qu'on aura vu la chaîne qui est liée à d'autres, plus on réfléchira sur les détails, plus on sentira la certitude des principes. Ces détails même, je ne les ai pas tous donnés. Car qui pourrait lire tout sans un mortel ennui ?» Alors voilà, ça c'est assez remarquable. C'est-à-dire que loin d'avoir rédigé un exposé linéaire qui déploie un à un tous les détails, c'est-à-dire toutes les vérités qui s'enchaînent, eh bien Montesquieu mentionne qu'il en a laissé un certain nombre. Il ne les a pas toutes données. Au motif qu'un exposé intégralement déductif aurait un caractère uniforme qui produit un mortel ennui. C'est-à-dire qu'ici, c'est un souci carrément d'écrivain, hein, c'est un souci esthétique qui motive sa façon de faire. Dans le fragment, d'ailleurs, d'une de ses pensées, que je ne vous ai pas photocopié, mais vous allez voir, c'est assez facile à saisir, dans le fragment d'une de ses pensées, il déclare, je cite, « Pour bien écrire, il faut sauter les idées intermédiaires. Il faut sauter les idées intermédiaires assez pour n'être pas ennuyeux, mais pas trop, de peur de n'être pas entendu. Ouais. Donc, il faut penser au plaisir du lecteur. Le plaisir du texte exige de l'écrivain qu'il ménage des surprises, qu'il déconcerte le lecteur. Il doit faire comme si les idées surgissaient parfois au hasard, sans ordre apparent, pour susciter justement la surprise, pour susciter l'intérêt de son lecteur. En outre, comme l'explique encore Montesquieu, et là c'est à la fin du livre 11, de l'Esprit des lois, on verra ça, l'écrivain ne doit pas tout mâcher au lecteur, il ne doit pas tout mâcher. Il doit lui laisser une part d'initiative et de recherche. Et je vous cite ce petit passage qui se trouve à la fin du livre 11. Il ne faut pas tellement épuiser un sujet qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser. Je reprends. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser. Alors, on peut comprendre ainsi que le caractère apparemment désordonné de l'ouvrage, parce que c'est vrai, quand vous regardez l'ouvrage, il est parfois une certaine discontinuité, il a un caractère qui peut paraître, il a un caractère apparemment désordonné, il a un caractère parfois fragmentaire, on peut être déconcerté, et d'ailleurs, ses lecteurs contemporains ont été souvent déconcertés, et on lui a même fait le reproche d'être incohérent. Or, Montesquieu insiste sur l'idée que, au contraire, son texte, son œuvre est parfaitement cohérente. Mais cette cohérence, elle ne s'aperçoit pas au premier regard. Il faut travailler. Il faut rétablir les chaînes. Il faut lier les différentes vérités. Mais ça, c'est votre boulot, hein. C'est pas à moi de tout vous mâcher. Bon. Et de fait, quand vous lisez l'Esprit des lois, vous voyez que Montesquieu pratique souvent l'ellipse. Il recourt souvent à des digressions, ou parfois aussi il change de registre de discours, passant d'une argumentation rigoureuse à un exposé sarcastique, où il se moque des pseudo-arguments d'un certain nombre d'individus. Vous avez par exemple ce fameux chapitre 5 du livre 15 sur l'esclavage des nègres. Voilà, c'est une digression. C'est une digression polémique. Les chapitres précédents sont une argumentation rigoureuse. Puis subitement, au chapitre 5, il arrête ce raisonnement, il arrête de raisonner, d'argumenter, et hop, vous passez à un texte où Montesquieu prête sa voix aux colons esclavagistes pour faire apparaître le ridicule, le caractère absurde, le caractère grossier de leur justification de l'esclavage. Il les fait parler. Et là, vous vous rendez compte que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Vous voyez ? Il change de registre exprès. Vous voyez ? Donc le lecteur est transporté d'un discours argumenté, parfaitement rigoureux, à ce genre de propos. Alors j'en viens maintenant à la présentation que fait Montesquieu de son projet et de la méthode qui en découle. Et ici, il faut lire attentivement surtout les paragraphes 3 à 6. Alors, paragraphe 3. J'ai d'abord examiné les hommes. Et j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. Alors, relisons-le, parce que c'est un passage vraiment là qu'il faut regarder avec attention. J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. Alors c'est là le projet de Montesquieu, hein, qui se trouvait là, son dessein. Donc il a commencé, hein, je paraphrase un petit peu si vous voulez, il a commencé par examiner les hommes à travers la diversité des lois et des mœurs de leurs différentes nations. Mais il ne s'est pas contenté de cet examen. Il ne s'est pas intéressé à leur diversité à la manière d'un collectionneur qui accumule des observations sur leur caractère disparate et souvent assez étrange. Non, il ne s'est pas intéressé à cette diversité comme un collectionneur. Il s'est intéressé pour en rendre raison. Il s'est intéressé à cette diversité pour l'expliquer. Et c'est ce que nous allons devoir comprendre. Donc, si je reprends la formule de Montesquieu, l'infinie diversité des lois et des mœurs qui caractérise le monde humain doit pouvoir être expliquée. Et selon Montesquieu, elle n'a rien d'irrationnel. Alors, voyons d'abord comment s'est effectué l'examen des hommes à travers la diversité des lois et des mœurs. On peut répondre tout simplement, c'est facile, par la lecture et par le voyage. Hein, comment Montesquieu a-t-il pratiqué cet examen ? Par la lecture, par le voyage. Il connaît les lois et les mœurs des anciens Grecs, des anciens Romains, comme encore celles des anciens Germains, par la lecture des historiens latins, comme Polybe, Tacite, petite livre. Tacite a consacré, par exemple, un livre à la Germanie. Il observe les Germains. Donc, c'est ça, sa documentation, si vous voulez, d'abord. Et l'esprit des lois est truffé de références à ses auteurs. Il connaît les usages et les institutions des Perses de son époque, hein, des Indiens, des Chinois, des Japonais, par le récit des voyages des marchands de son époque. Il se réfère ici assez souvent, d'ailleurs, au récit de Chardin et de Tavernier. Chardin et Tavernier ont écrit des récits, ils ont raconté, ils ont rapporté effectivement ce qu'ils avaient vu dans ces pays d'Orient. Et c'est vraiment une documentation très importante pour Montesquieu. Il les cite très souvent. Il a lu aussi les lettres édifiantes et curieuses, c'est ainsi qu'elles s'appellent, les lettres édifiantes et curieuses, publiées en 1702 par les jésuites qui sont allés en Chine. Ah ben, parce que les jésuites, hein, on ne les arrête pas. Hein. Ils se sont dit, tiens, en Chine, on va peut-être convertir. Ils sont allés là-bas. Bon, ils ont raté, hein. Mais ils sont revenus avec des lettres assez intéressantes, remarquables. Et lui-même, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, il a effectué un voyage de 3 ans en Europe, grâce auquel il a pu observer la République de Venise, le royaume de Naples, les États pontificaux, les principautés allemandes, et puis surtout la monarchie constitutionnelle anglaise. Donc, vous voyez que Montesquieu dispose d'une documentation considérable. Et justement, dans un texte tardif, donc La défense de l'esprit des lois, dont je vous ai photocopié un petit extrait, et qui se trouve là, hein, juste après la préface, là, c'est un texte où il répond aux objections, aux critiques de ses lecteurs, et bien, dans ce petit extrait, il souligne le souci d'exhaustivité. Et il souligne l'ampleur de son examen. Je vous cite un petit passage de cet extrait. Vous voyez, si vous voulez, vous allez repérer avec moi. C'est à partir du moment où il dit « Cet ouvrage », troisième ligne, « Cet ouvrage a pour objet », il parle de l'esprit des lois, bien sûr, « Cet ouvrage a pour objet les lois, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre ». On peut dire que le sujet est immense, puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes. Donc vous voyez que l'Esprit des lois est un ouvrage qui a pour ambition d'étendre le champ de la réflexion à tous les peuples de la terre. Je dis bien à tous les peuples de la terre. Même un projet révolutionnaire de ce point de vue-là. Mais comme j'ai dit, Montesquieu ne s'en tient pas seulement à l'examen de l'infinie diversité des lois et des mœurs. Car si tel était le cas, son ouvrage ne serait qu'un catalogue. Un catalogue d'institutions hétéroclites. Or, son projet, je l'ai dit, n'est pas de dresser une collection. Son projet est de montrer que le monde humain, en toute sa diversité, peut être rendu intelligible. Le monde humain, en toute sa diversité, peut être rendu intelligible. Et je relis cette phrase importante, hein, qui se trouve dans le paragraphe 3. J'ai cru. Or, j'ai cru, ça veut dire j'ai fait le pari, en quelque sorte. Vous voyez, j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils, c'est-à-dire les hommes, n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. Donc, vous voyez que Montesquieu croit pouvoir découvrir les raisons pour lesquelles les hommes ont telle ou telle mœurs, adoptent telle ou telle institution dans leurs diverses nations. C'est-à-dire, au fond, expliquer l'infinie diversité des lois et des mœurs, c'est expliquer pourquoi tel peuple a telle mœurs, et telle loi, et pas telle autre. Vous voyez ? Et c'est ça la grande nouveauté de Montesquieu. Il n'est pas le premier à examiner la diversité des mœurs et des lois. Ce n'est pas le premier. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le premier grand historien, celui qu'on considère comme le premier grand historien, qui était Hérodote, eh bien, il avait réuni dans ses histoires, histoire veut dire enquête hein, au départ, il avait réuni dans ses enquêtes, dans ses histoires, la diversité des mœurs et des coutumes du monde connu de son temps. Et Hérodote avait déjà fait ça, si vous voulez. Il avait examiné, il avait observé attentivement les mœurs, les lois des différents peuples, ceux qu'il connaissait. Il s'intéressait à d'autres peuples que les Grecs. Et donc Montesquieu n'est pas le premier, si vous voulez, à s'intéresser à la diversité des mœurs et des lois. Il n'est pas non plus le premier à faire valoir cette diversité contre toute forme de préjugé ethnocentrique. Il suffit de rappeler le très célèbre essai de Montaigne sur les cannibales, où Montaigne démontre le préjugé ethnocentrique qui consiste à ériger en référence absolue les coutumes de son propre pays et à rejeter comme insensé, comme barbare, les coutumes des autres peuples. On peut citer cette fameuse formule de Montaigne dans l'essai sur les cannibales. « Chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage. » Montesquieu adhère tout à fait, bien sûr, à cette idée. Les Européens, je me réfère encore à Montaigne dans son essai sur les cannibales. Les Européens qui débarquent au Brésil sont horrifiés par la pratique du cannibalisme des Indiens. Mais, comme il le montre à la fin de son essai, les Indiens du Brésil, qui sont invités à visiter Rouen en 1562 et à voir Charles IX, eh bien, ils trouvaient extrêmement bizarre et tout à fait choquant qu'à Rouen, des hommes soient pauvres et affamés quand les autres étaient gorgés de richesses. Enfin, pour eux, il est absolument impensable, un truc pareil. Vous voyez ? On peut inverser le regard. Eh bien, Montesquieu fait sienne la critique que fait Montaigne du préjugé ethnocentrique, hein, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'exclut a priori aucune coutume, aucune institution de la diversité des lois et des mœurs qu'il se propose d'examiner. Il va examiner toutes les coutumes, aussi bizarres qu'elles puissent nous paraître. Et il va chercher à les expliquer. Donc, s'il n'est ni le premier à examiner la diversité des lois et des mœurs, ni le premier à faire accueil à cette diversité, en revanche, il est le premier à chercher à en rendre raison, il est le premier à chercher à expliquer la diversité des coutumes, des lois et des mœurs. Et sur ce point, il est en rupture. Il est en rupture avec le scepticisme moral de Montaigne, qui va être suivi en ce sens par Pascal. Il est en rupture avec le scepticisme de Montaigne, le scepticisme moral de Montaigne, pour lequel la diversité des lois et des mœurs est irrationnelle. Car elle est seulement, selon lui, l'affaire des fantaisies des hommes. Autrement dit, elle est l'affaire de leurs préférences arbitraires, subjectives. La diversité des lois et des mœurs serait affaire, au fond, d'opinions arbitraires qui varient d'un peuple à l'autre. Et voilà pourquoi on ne peut pas les expliquer, vous voyez, puisque c'est affaire de fantaisie. Ça échappe à toute intelligibilité. Ces institutions ne sont pas l'œuvre de la raison. Vous voyez. Et c'est bien à Montaigne et à Pascal que Montesquieu, ici, s'oppose ici, bien sûr, sans les nommer. Mais on sent bien qu'il a, en mémoire certaines formules de Montaigne. Et pour bien mesurer l'originalité du projet de Montesquieu, je crois qu'il est utile de dire quelques mots justement sur la thèse du scepticisme moral à laquelle il s'oppose. Pour Montaigne, comme pour Pascal, la diversité des coutumes et des institutions est la preuve même de l'impuissance de la raison humaine. Parce que non seulement celle-ci est incapable de produire des règles universelles de conduite qui seraient valables pour tous les hommes, qui seraient vraies pour tous les peuples, mais encore le serait-elle que la raison serait incapable de s'imposer. Voyez ? C'est-à-dire que, au fond, la raison humaine, enfin, on dit souvent que c'est la raison qui a la source des règles universelles de conduite des hommes. C'est ce qu'on appelle l'universalisme, si vous voulez. Il n'y a de vraie morale qu'universelle. Il n'y a de vraie justice qu'universelle. Non. Il n'y a pas de justice universelle chez les hommes. Il n'y a qu'une diversité de conception de la justice. Il n'y a qu'une diversité de lois et de mœurs qui sont tout simplement fonction des préférences des hommes, qui sont complètement arbitraires. Et la raison là-dedans, la raison elle n'impose rien. La raison est incapable d'élaborer des règles universelles. Et d'ailleurs, dans son essai sur la coutume, Montaigne, vous allez tourner la page, et vous allez voir, j'ai souligné ce passage, que là, il faut aller vite, je ne peux pas tout lire. Regardez le texte qui se trouve à droite, là, et je cite cette formule qui est, je pense, assez claire. Bien sûr, vous lirez à tête reposée l'ensemble du texte, « La raison humaine, dit Montaigne, est une teinture faite avec environ pareil dosage de toutes nos opinions et mœurs, de quelque forme qu'elles soient, infinie en matière, infinie en diversité. » Vous voyez d'où vient la formule ?« Infinie en diversité », ça vient de Montaigne, que reprend. Et c'est cette formule que reprend d'une certaine manière Montesquieu dans sa préface. Donc la raison humaine est une teinture de toutes nos opinions et nos mœurs, de quelque forme qu'elles soient, infinies en matière, infinies en diversité. Et au fond, nous croyons, j'explique Montaigne, nous croyons que la raison humaine est autonome. Nous croyons qu'elle est capable de produire des règles universelles de jugement. En réalité, la raison ne fait que justifier les usages et les opinions qui résultent de la coutume. Vous voyez ? Elle ne fait que justifier, tout simplement, les usages, les opinions qui résultent de la coutume. Et d'ailleurs, quelle que soit cette coutume, c'est pour ça qu'elle est une teinture de toutes nos opinions et de nos mœurs. Elle n'a rien d'autonome. Elle n'a absolument rien d'autonome. Et la coutume façonne d'autant mieux nos jugements que nous ne nous en apercevons pas, que nous n'apercevons pas son rôle et qu'elle nous conditionne à notre insu, comme d'ailleurs le montre l'autre texte qui se trouve plus bas. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés par notre coutume et nous croyons que, au fond, notre coutume est universelle. Que tous les hommes, finalement, ont la même. Nous croyons alors juger par notre seule raison, selon des règles universelles. Alors que, en fait, c'est la coutume qui s'exprime à travers ce que nous croyons être raisonnable. Ainsi, nous trouvons naturel les mœurs dans lesquelles nous avons grandi, et puis à l'inverse, les mœurs différentes des autres nations, nous paraissent déraisonnables. Elles nous paraissent relever de la folie collective. Et alors, vous avez une très belle formule de Montaigne dans le deuxième texte qui se trouve en bas à gauche. Regardez la fin, une dernière formule. Par là arrive que ce qui est hors des gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison. Ce qui n'est pas de mon usage, je considère que c'est de la folie. que c'est barbare, que c'est, vous voyez, insensé. Et réciproquement, évidemment, hein, pour ceux qui me voient du point de vue de leur propre coutume. Donc voilà ce que dit Montaigne. Eh bien, Pascal dresse le même constat, un peu d'une autre façon, dans ses pensées. Que dit Pascal ? La justice des hommes n'est pas universelle. Elle est fondée seulement sur la coutume, qui est arbitraire, qui est particulière, et qui change d'un pays à l'autre. Ainsi, quand les hommes prétendent connaître la vraie justice, ils ne font qu'ériger en vérité l'opinion particulière qu'ils s'en font. Et regardez le premier texte de Pascal, en haut. Je vous ai souligné ce passage. Il est très célèbre, vous le connaissez certainement. « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà. » Vous connaissez cette formule. Elle est dans les pages roses du dictionnaire. Alors, vous voyez, la diversité des opinions particulières que les hommes se font de la justice et qui se traduisent par une variété de pratiques et d'institutions d'un pays à l'autre, eh bien, cette diversité apparaît ainsi comme le résultat d'une plaisanterie. D'une plaisanterie qui relève du pur arbitraire. Vous voyez que, pour Pascal comme pour Montaigne, la diversité des lois et des mœurs est condamnée à rester inintelligible. Car elle est foncièrement irrationnelle. Elle provient seulement des fantaisies des hommes. Elle n'a pas pour origine la raison, une raison prétendument universelle. Alors, nul doute que c'est à ces penseurs que pense Montesquieu en écrivant sa préface. Et c'est sur ce point précis qu'il marque un désaccord radical avec eux. Alors, quel est-il ? Eh bien, la diversité des lois et des mœurs n'est pas seulement une affaire d'opinion qui varie selon les peuples, de manière fantaisiste. La diversité des lois et des mœurs est d'abord et surtout une question de circonstances qui ne sont pas les mêmes d'un peuple à l'autre. Et ces circonstances, elles peuvent parfaitement s'expliquer. Les circonstances variables, hein, les circonstances qui varient évidemment d'un peuple à l'autre, les peuples ne sont pas situés dans les mêmes conditions. Ces circonstances qui sont variables, elles peuvent s'expliquer. Les lois et les mœurs varient notamment selon le climat, selon la nature du terrain, selon l'histoire particulière d'un peuple, selon sa religion et d'autres facteurs encore. Ce sont là des facteurs dont on peut faire l'étude. La diversité des circonstances contraint la raison humaine à établir des lois qui s'y adaptent. Mais la raison est présente. Simplement, elle s'exerce différemment parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Vous voyez ? Alors évidemment, il ne peut pas y avoir d'universalité des lois parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Hein ? Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, c'est parce qu'il y a diversité qu'il y a irrationalité. C'est pas parce qu'il y a diversité que la raison n'est pas présente. Mais elle s'exerce de façon différente selon les situations. Et les circonstances peuvent faire l'objet d'une connaissance. Vous voyez ? Donc, alors maintenant, la question qui va se poser, paragraphe 4, quelle est la méthode utilisée par Montesquieu pour mettre en œuvre son projet ? Alors, lisons le paragraphe 4. Tournez la page. J'ai posé les principes. Et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Les histoires de toutes les nations n'en êtes que les suites. Et chaque loi particulière liée avec une autre loi ou dépend d'une autre plus générale. Paragraphe 4. Hein. Alors, évidemment, la question, c'est quels peuvent être ces principes ? De quels principes parle Montesquieu ? Quels sont ces principes qui permettent de comprendre les lois et les mœurs des hommes dans leur diversité? Alors la préface ne le précise pas encore. La préface ne nous le dit pas encore, hein. C'est vrai. On devine que ce sont des principes de méthode pour mener une recherche. Mais nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Et nous ne le saurons qu'en lisant la fin du dernier chapitre du premier livre, du chapitre 3 du premier livre. Je peux déjà vous le dire, ce n'est pas compliqué à comprendre. Les principes ici dont parle Montesquieu, ce sont ce qu'il appelle, dans le chapitre 3, les différentes vues sous lesquelles on peut aborder les lois et les mœurs des nations. Ce sont les différentes vues, ou points de vue, si vous voulez. Alors, parmi ces principes, vous avez d'abord des principes généraux qui permettent d'expliquer les lois en les rapportant au type de gouvernement qui régit une nation. Alors, ce qu'on appelle un gouvernement à l'époque, ce n'est pas l'exécutif. Le gouvernement, c'est le régime politique, c'est le type d'État, si vous voulez, hein. Donc, vous avez d'abord les principes généraux qui permettent d'expliquer les lois en les rapportant au type de gouvernement qui régit une nation. Est-ce qu'il s'agit d'une monarchie? Est-ce qu'il s'agit d'une république? Est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement despotique? Vous voyez? Vous avez d'abord ces principes généraux, puis ensuite, et d'ailleurs les deux premières parties de l'esprit des lois, qui vont jusqu'au livre 13 inclus, sont consacrées à ces principes généraux. Puis viennent les principes qui expliquent les mœurs et les lois propres à un peuple en particulier, en montrant leur rapport avec le climat, avec la nature du terrain, avec l'histoire passée, avec la religion, le type d'économie qui caractérise ce peuple. Pour le dire autrement, ces principes expliquent ce qui fait la particularité d'une nation en montrant le rapport entre ses mœurs et ses lois et ses différents facteurs qui la particularisent, comme le climat, la nature du terrain, l'histoire passée, etc. etc. Et ces principes, donc, expliquent la particularité des nations, la particularité des circonstances, en fait, dans lesquelles un peuple est placé. Vous voyez ? Alors, et d'ailleurs, comme on vous verra, c'est en étudiant l'ensemble de tous ces rapports, de tous ces facteurs, eh bien, qu'on pourra rendre raison de la singularité des lois et des mœurs de telle ou telle nation. Et l'ensemble des rapports qui permettent d'expliquer les lois et les mœurs d'une nation, c'est ce que Montesquieu appellera l'esprit des lois. Mais n'allons pas trop vite. Ce qui est sûr, ce qui est clair, à notre stade de lecture, c'est que, réduite à une simple description, ces lois et ces mœurs resteraient des faits purement inintelligibles. Si on ne faisait que les décrire, on ne pourrait pas les comprendre. Et c'est à la lumière des principes qui sont dégagés par Montesquieu, eh bien, qu'il sera possible de les identifier et de les expliquer. Vous voyez, je reprends sa formule, j'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les cas particuliers ne peuvent être compréhensibles, peuvent être identifiés, expliqués, que si, effectivement, ils sont éclairés par ces principes. Bah, sinon ça reste des faits bruts qu'on ne peut pas comprendre. Je prends un exemple. Un exemple, d'ailleurs, qui sera abordé par Montesquieu. Pourquoi la cité d'Athènes est-elle une démocratie? Et pourquoi Sparte, qui est une cité voisine, est-elle une aristocratie? Alors, on verra que pour Montesquieu, une démocratie et une aristocratie, ce sont deux types de républiques. Bon, simplement, dans une démocratie, c'est le peuple tout entier encore qui dirige, qui gouverne, tandis que dans une aristocratie, c'est une élite. Voilà, c'est la différence. Mais ce sont des républiques, au sens où les lois valent pour tous. Alors, il y a une différence, si vous voulez, entre Athènes et Sparte de ce point de vue-là. Ils n'ont pas le même régime, pas tout à fait le même régime. Et alors, comment expliquer ça? Voilà une question que se pose Montesquieu. Eh bien, Montesquieu montrera que la nature du terrain est un facteur qui contribue à expliquer la différence entre Sparte et Athènes. Un terrain stérile, comme celui d'Athènes, est propice à l'émergence d'une démocratie. Un terrain fertile est favorable à celui, à l'émergence, pardon, d'une aristocratie. Alors, je ne fais pas la démonstration pour l'instant, mais vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est qu'on doit pouvoir expliquer pourquoi des cités qui finalement ont le même climat, qui normalement devraient avoir bien des points communs, ben, n'ont pas le même régime. Ben, vous voyez, on va trouver le facteur, on va chercher le facteur qui permet de les différencier. Voilà comment Montesquieu raisonne, vous voyez. Et à la lumière donc, des principes de méthode dégagés par Montesquieu, eh bien, la comparaison entre les deux cités antiques que sont Athènes et Sparte, eh bien, va s'avérer fructueuse. Elle permet de faire ressortir leurs différences. Elle permet de saisir leur singularité. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est qu'il faut arriver à rendre raison de la singularité des institutions, des lois, des mœurs, d'un peuple en particulier. C'est ça le but de l'esprit des lois. Vous voyez ? Et c'est grâce à des principes qu'on va pouvoir effectivement parvenir à expliquer cette singularité en mettant en œuvre une méthode comparative. Et le danger en la matière, comme d'ailleurs l'explique Montesquieu au paragraphe 5, et bien dans ce paragraphe montre Montesquieu, il montre que le danger, c'est de considérer comme semblable ce qui est différent. C'est-à-dire de mettre dans le même sac, si vous voulez, des cas particuliers qui sont différents. Alors, il y a deux niveaux d'erreur, si vous voulez. Soit, alors je cite tout le texte, hein, carrément. Quand j'ai été rappelé à l'Antiquité, hein, c'est-à-dire à examiner les cités antiques, par exemple, eh bien, j'ai cherché à en prendre l'esprit pour ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents et à ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables. Alors, vous avez deux cas de figure. Soit le danger, l'erreur, l'illusion, c'est de regarder comme semblables des cas réellement différents. Bon, un exemple, on confond par exemple une monarchie avec une république. Hein? Bon, franchement, là, c'est une confusion. Hein? Mais là, c'est une confusion assez, assez grossière. Soit, de manière plus fine, soit c'est manquer, je cite le texte, manquer les différences de ceux, c'est-à-dire des cas particuliers, qui paraissent semblables. Je reprends mon exemple. Sous le rapport du climat, Athènes et Sparte sont deux cités qui paraissent semblables. Mais l'examen de la nature du terrain, de leur terrain respectif, permet de saisir leurs différences. Vous voyez ? Autre exemple, les républiques antiques et les républiques modernes, comme la République de Venise ou la République de Hollande du temps de Montesquieu, eh bien, ces républiques apparaissent semblables. Ce sont des républiques. Elles apparaissent semblables. Or, si on les étudie plus rigoureusement, on verra que leur économie est radicalement différente. Leur système économique est radicalement différent. C'est sous l'angle économique qu'on va pouvoir rendre compte de leurs différences. Vous voyez ? On va trouver le facteur qui va permettre de les différencier et les saisir dans leur singularité. Ben, vous me direz, mais ah oui, mais d'accord, bon, ok. Mais qu'est-ce qui nous garantit que les principes de méthode mis en œuvre par Montesquieu ne sont pas, somme toute, l'expression de ses préjugés, après tout, hein ? Est-ce que ce n'est pas en fonction de ses préjugés qu'il juge et qu'il compare ? Qu'est-ce qui nous garantit leur valeur objective ? Ben, réponse de Montesquieu. Regardez, paragraphe suivant. Paragraphe 6. Regardez ce que dit Montesquieu. Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. Et il précise, ah oui, je vous vois venir. Vous allez penser que, bon, je dis un peu ce que je veux, je me laisse guider par mes préjugés. Mes principes ne seraient que l'expression de mes préjugés. Eh bien, je dis non. Ces principes sont tirés de ce qu'il appelle la nature des choses. Et voilà, c'est une expression très importante qui va revenir souvent sous la plume de Montesquieu. Alors, pour l'instant, disons, contentons-nous de dire que la nature des choses, eh bien, c'est ce qui désigne, au fond, les données qui caractérisent une situation particulière, des données qui ne dépendent aucunement de la volonté des hommes. La nature des choses, par exemple, c'est le climat, c'est la nature du terrain, c'est l'histoire passée d'un peuple, ce sont des faits qu'on ne peut pas, que les hommes ne peuvent pas changer, qui s'imposent à eux. C'est ça la nature des choses, vous voyez ? Et donc, je n'invente pas, hein, le climat, il est ce qu'il est. Comment la nature du terrain, c'est pareil. C'est ça qui finalement, inspire mes principes. Mes principes se réfèrent à ces facteurs-là. C'est ça la nature des choses. Ils s'imposent à l'observation. Alors, dernier point de mon propos, parce que j'en resterai là ce soir, parce que sinon ça va être trop long. Non, je n'aurai pas tout expliqué de cette préface, mais j'espère, disons, en avoir montré l'essentiel ce soir. Donc, si nous en restons là, on pourrait penser que la démarche de Montesquieu, c'est celle d'un homme de science. C'est celle d'un homme de science qui cherche à expliquer les lois et les mœurs des nations à la manière d'un physicien qui étudie les phénomènes naturels en les rapportant à des lois rationnelles. Les physiciens, vous savez que la physique est une science nouvelle au XVIIe siècle, avec Galilée, et puis après Galilée, il y aura Newton. Galilée, il est d'abord la loi de la chute des corps, hein, qui est une loi qui met en rapport des variables, hein, de manière constante. Hein, c'est le même rapport. Bon, ben, la raison permet effectivement de montrer la constance du rapport qui existe entre les variables. C'est ça, la loi physique. Newton, c'est la loi de gravitation universelle. On pourrait penser qu'au fond, Montesquieu fait la même chose. Il va mettre en corrélation des variables. Alors le climat, la nature du terrain, et puis il va voir comment, hein, en fonction, comment s'effectuent les variations, en quelque sorte, pour expliquer la singularité de chacune des lois et de chaque nation. Mais est-ce exactement le cas ? Est-ce que Montesquieu, ici, adopte la posture objective d'un savant, d'un homme de science, qui serait extérieur à son objet, qui se borne à décrire et à expliquer ce qu'il observe. Ici, les lois et les mœurs d'un pays. Un savant explique, un savant ne juge pas. Vous voyez ? C'est-à-dire que un homme de science, si c'était vraiment bien le cas ici de Montesquieu, ce serait un homme qui se borne à expliquer, mais s'interdit de juger les lois et les mœurs qu'il explique. Vous voyez ? Il y a une distinction à faire entre expliquer et juger. Expliquer, c'est montrer comment ça marche, comment ça fonctionne. Juger, c'est se référer à des valeurs. C'est dire si c'est bien, si c'est mal, si... Vous voyez, bon. Alors, on a vu en Montesquieu un précurseur de la sociologie. Alors, Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, à la fin du XIXe siècle, qui a consacré d'ailleurs une thèse à Montesquieu en latin, s'il vous plaît. Eh bien, Émile Durkheim voyait en Montesquieu un précurseur de la sociologie. Il le lisait comme ça. Seulement, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que Montesquieu distingue radicalement, d'un côté, les faits, et puis de l'autre côté, les valeurs ? Est-ce qu'il distingue une démarche qui serait purement explicative, au fond, d'une approche normative ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je dis non. Et vous allez voir pourquoi et comment. Je repose ma question. Est-ce qu'en recherchant les causes des lois et des mœurs, en étudiant les circonstances qui ont produit leur émergence, est-ce que Montesquieu s'interdit tout jugement de valeur à leurs propos? C'est ce qu'on pourrait penser, c'est ce qu'on pourrait penser en lisant le paragraphe 9. Le paragraphe 9 semble aller dans ce sens. Je le lis. Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. Vous voyez, je m'interdis de juger. Je m'interdis de condamner. Je m'interdis aussi d'approuver. J'adopte une sorte de position de neutralité, comme le savant, quoi. Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes. Les maximes, c'est les règles de conduite. Et on en tirera naturellement cette conséquence qu'il n'appartient de proposer des changements qu'à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d'un coup de génie toute la constitution d'un État. J'explique pas tout du paragraphe, juste ce qui me paraît nécessaire. Il semblerait, à lire ce paragraphe, que Montesquieu distingue tout simplement ici ce qui est connaissance et puis ce qui est action. Et il y aurait d'un côté le savant qui, comme lui, entreprend de connaître les lois et les mœurs des nations, qui entreprend de les expliquer, et puis de l'autre, vous auriez l'homme d'action, le législateur. Le législateur qui propose des changements, c'est-à-dire qui se propose de promulguer des lois nouvelles afin de corriger les anciennes lois qu'il juge mauvaises. Et si vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il y a un départage entre ces deux attitudes, hein, très clair. Eh bien, la suite de la préface récuse cette distinction, récuse ce genre de distinction. Alors attention, je précise. Certes, connaître n'est pas agir. Connaître n'est pas agir. Mais l'action ne peut être éclairée que si elle se fonde sur la connaissance. C'est ça que va montrer ici Montesquieu. Vous voyez, pour bien agir, en quelque sorte, il faut effectivement être éclairé par la connaissance. Et comme il l'explique, toujours dans l'extrait de la défense de l'esprit des lois que je vous ai lu tout à l'heure, eh bien, comme l'explique Montesquieu dans ce petit texte, que j'ai lu déjà partiellement, en écrivant l'esprit des lois, Montesquieu ne se contente pas de dire qu'il cherche à découvrir les causes des lois et des mœurs, il ajoute qu'il les évalue. Et là, vous allez lire avec moi c'est ce petit passage, vous voyez, 3-4 lignes avant la fin, dans ce petit texte, il examine celles, c'est-à-dire les lois, alors celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes et celles qui n'en ont aucun. On lit mal, hein, mais c'est pour ça que je vous relis le passage. Il examine celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes et celles qui n'en ont point. Que de deux pratiques pernicieuses, il cherche, et de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus et celle qui l'est moins. Donc, il évalue. Il y a une évaluation, il y a un jugement de valeur ici. Donc, vous voyez qu'il ne se contente pas d'une explication, il évalue les lois qu'il étudie. Vous voyez, il les évalue en termes. Alors, on ne dirait plus. On ne dirait pas ça de la même manière aujourd'hui, on ne dirait pas en termes de bonté, hein, mais on dirait qu'elles sont valables. Quoi, hein, vous voyez. Donc, c'est très important ce point-là. Hein, très important, parce que vous allez comprendre que chercher ce que Montesquieu appelle les raisons des lois et des mœurs, ne se réduit pas à en rechercher les causes. Ça ne se réduit pas à en rechercher objectivement les causes. Mais c'est aussi en mesurer les effets sur les hommes Et c'est par là évaluer leur degré de bonté. C'est-à-dire, quand Montesquieu réfléchit sur les lois, non seulement, bien sûr, il veut comprendre leur origine en termes de cause, bien sûr, mais il veut aussi évaluer les effets que produisent ces lois sur les hommes. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Vous voyez? Donc il les juge. Il les juge en fonction d'une situation qui est toujours particulière, hein, bien sûr. Et donc il s'interroge sur les effets produits par ces lois, justement pour les évaluer. Vous voyez, il ne s'intéresse pas seulement aux causes de ces lois. Ce que ne fait pas le sociologue. Le sociologue ne parle pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plaquer sur Montesquieu une distinction qui s'est faite tardivement, à partir du XIXe siècle, où effectivement on a commencé par distinguer ce qui est de l'ordre de l'objectivité de la science. Le savant explique les faits, il décrit les faits, il ne prononce pas de jugement, il est extérieur à ce qu'il explique. Il adopte une posture d'objectivité, si vous voulez, hein, il ne juge pas. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qui est de l'ordre du jugement, ce qui est de l'ordre de la norme, ce qui est de l'ordre des évaluations, et ça, ce n'est pas l'affaire du savant. Non, eh bien, justement, Montesquieu n'est pas dans ce genre de distinction. Pour lui, l'étude est inséparable d'une évaluation. La connaissance, d'ailleurs, comme il le montre, la connaissance des lois et des mœurs n'a de sens que si elle permet... Et c'est ce qu'il va montrer après, dans les paragraphes qui suivent, elle n'a de sens que si elle permet d'éclairer le jugement. On ne peut pas séparer la connaissance du jugement. Bien, et quand il parle du jugement, c'est aussi bien celui des magistrats, de ceux qui peuvent être législateurs, que ceux du peuple, comme vont l'indiquer les paragraphes suivants. Alors là, je vais être très rapide parce que je vais arrêter bientôt. Vous voyez, un législateur qui se propose de modifier une loi. Pourquoi il se propose de modifier une loi? Parce que cette loi lui paraît mauvaise. Bon. Il se propose de modifier une loi par une nouvelle loi qui lui paraît meilleure. Eh bien, un tel législateur ne peut pas, pour Montesquieu, il ne peut pas établir cette loi sans prendre connaissance de la configuration singulière de la nation dans laquelle il intervient. Il faut qu'il ait une connaissance, finalement, de la particularité du peuple sur lequel il va agir. Et s'il n'a pas cette connaissance, s'il légifère de façon comme ça, rapide, sans avoir approfondi son sujet, il risque de faire pire. Hein, je vous lis ce petit passage bien connu. Dans un temps, c'est le paragraphe 10, dans un temps d'ignorance, on n'a aucun doute, même lorsqu'on fait les plus grands maux. Dans un temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. Le législateur, le meilleur, celui le plus éclairé, c'est celui qui tremble quand il établit une loi. Il tremble. Hein, du changement qu'il va produire. Alors que celui qui est ignorant, lui, il va carrément... allez, on réforme. Oh, boum. Et puis, évidemment, c'est pire. C'est pire. Alors, donc, voilà. Ouais, si vous voulez, ce que dit Montesquieu. Et comme vous le verrez au fur et à mesure, comme on le verra au fur et à mesure, eh bien... Là, je ne vais pas m'étendre parce que ce serait trop long, mais on reprendra éventuellement cette partie du texte. L'esprit des lois, c'est un texte éducatif. Il a, Montesquieu, en écrivant l'esprit des lois, il a une ambition éducative. Son ambition, c'est de former le regard des législateurs pour leur apprendre à établir de bonnes lois. Et qu'est-ce que c'est que des bonnes lois? Ce sont des lois qui conviennent au peuple, en vue duquel elles doivent être établies. Mais ça s'apprend. Il faut une formation, il faut former ce regard du législateur. Vous voyez? Et sinon, le législateur se comporte finalement de manière brutale, hein, sans tenir compte des mœurs, de la situation, de la disposition particulière du peuple, finalement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bon, j'arrêterai là aujourd'hui. Et je poursuivrai, non pas le 3 octobre, mais le 15, je crois, cette lecture. Je vous remercie de votre écoute et je suis à vos questions. J'ai un peu débordé. Alors, allez-y. Il n'y a pas de questions sautes, hein. Principe. Je suis à votre écoute. Oui.
La référence à la nature des choses, est-ce que ça fait appel au texte de Lucrèce?
Oui, on pourrait penser ça. Non, pas spécialement. Non, parce que ce n'est pas la nature des choses pour Grèce. C'est un projet qui concerne la totalité de l'univers. Bon, c'est une dimension cosmique. Remarquez, ce n'est pas faux non plus. Il y a plusieurs étages de la nature des choses. Alors, je répondrai mieux à votre question en lisant le livre 1 de l'Esprit des lois, qui commence par une approche cosmologique de la loi, et qui cherche à situer l'homme par rapport à ça. Donc il y a effectivement, oui, d'une certaine façon, on ne peut pas exclure ce sens. Mais c'est une expression, pour l'instant, je ne peux pas effectivement être satisfaisant, mon explication peut être satisfaisante. Bon, j'en ai dit ce que je pense, on peut dire au départ.
Oui. Pour prolonger la question, Montesquieu insiste sur la singularité des lois et des mœurs, mais est-ce que dans son ouvrage, L'Esprit des lieux, est-ce qu'il parle de quelques lois qui seraient universelles à tous les peuples, qui seraient,
Bonne question. Alors ça aussi, on verra. On verra. Alors, ça c'est une bonne question, effectivement, parce que il va montrer qu'il y a des exigences communes à tous les hommes, qui sont celles de leur sensibilité. Donc les hommes, c'est pour ça que, par exemple, le pire des régimes, et ça on peut le dire de façon universelle, c'est le despotisme. Parce qu'il il produit des maux considérables à l'être humain. Il porte atteinte à tous les hommes, quel que soit le peuple. Là, effectivement, on peut dire de façon incontestable le régime despotique est un régime mauvais. En revanche, quand il s'agit de définir le bien, il n'y a pas de bien absolu pour Montesquieu. Il n'y a de bien que relativement à la disposition particulière d'un peuple. Donc on ne peut pas trouver de modèle universel, il n'y a pas de loi universelle qui serait valable pour tous les peuples indistinctement. C'est-à-dire que si vous voulez, il a un universalisme négatif, en quelque sorte. Vous voyez, il n'y a pas de règle universelle qui s'impose à tous les hommes, ou alors ceux qui pensent ainsi, ceux qui affichent ce genre d'universalisme, souvent ils risquent, je dirais, d'être dans l'ethnocentrisme, ou aussi dans une approche impérialiste. Vous voyez il est extrêmement réticent et méfiant à l'égard de ce genre de proclamation universaliste. On aura l'occasion de bien le voir. Mais alors, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il est uniquement relativiste? Est-ce que pour lui, il n'y a que des règles relatives, des valeurs relatives? Est-ce qu'il n'y a, auquel cas, il n'y aura rien d'universel? Non, non, puisque, vous voyez, il y a tout de même quelques règles universelles, qui ne sont pas de l'ordre de la raison, qui sont de l'ordre de la sensibilité. Alors évidemment, c'est une question qu'on verra, ça, on reverra ça, parce que là, il faut être plus précis dans le propos. Voilà, ça, c'est ce que je peux dire. Oui, en un sens, Montesquieu est relativiste, mais il faut bien comprendre en quel sens. Il n'est pas relativiste au sens de Montaigne, ou au sens de Pascal, qui montre qu'au fond, les coutumes se valent toutes, puisque, au fond, elles sont affaires de préférence, d'opinion, hein, qui varient selon les peuples. Hein. Il n'y a pas de raison de dire que les unes sont valables et d'autres, les autres sont mauvaises, puisque c'est finalement la fantaisie qui décide. Montesquieu ne dit pas ça, évidemment, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il montre que la justice, elle se décide toujours en situation, dans une situation singulière, particulière. C'est-à-dire qu'elle est toujours relative à des circonstances particulières. Donc ça ne veut pas dire que... c'est une question de caprice. Hein. Vous voyez, la raison est présente, si vous voulez. Mais elle ne peut pas s'exercer de la même manière pour tous les peuples parce qu'ils ne sont pas dans des situations semblables.
Oui, c'est ça. Donc établir une loi, c'est-à-dire le vivre ensemble, c'est ça les lois finalement. Vivre ensemble, dans une communauté, une société, va dépendre de toutes les conditions extérieures, tous les facteurs extérieurs, environnement.
Et aussi, pas seulement extérieur, mais aussi l'histoire, la religion, la tradition, de ce que Montesquieu va appeler l'esprit général d'une nation, hein, bon, ce qu'il va préciser ça au fur et à mesure. Et donc voilà, ça c'est très important. Il y a toujours un contexte, la justice s'exerce toujours dans un contexte particulier, elle est toujours relative à un contexte particulier. Et donc, on ne peut pas transposer ce qui est vrai d'une situation à une autre, comme ça, telle qu'elle. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, il s'oppose à tous ces penseurs du droit naturel moderne, qui, eux, considèrent que la raison est la source de normes universelles et qu'au fond, une société est juste quand ses institutions sont conformes à ces normes universelles. Ça, la plupart des philosophes, si vous voulez, de son temps, raisonnent de cette manière-là. Vous voyez ? Il y a une universalité, des exigences universelles qui vont permettre d'évaluer finalement les institutions des différents pays et dire que si ces institutions sont justes, où elles sont injustes, en fonction de leur degré de conformité à ces règles universelles. Ben non, ça, il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a pas de règle universelle qu'on puisse poser a priori. Vous voyez, le point de départ de la réflexion de Montesquieu, c'est la diversité des peuples.
Et en ce qui concerne l'évaluation, est-ce qu'il pose des principes d'évaluation ?
Alors, ces règles d'évaluation vont se faire en fonction de la disposition d'un peuple particulier. Donc il n'y a pas de règle...
Il n'y a pas une méthode.
Non, il n'y a pas une règle absolue qui puisse effectivement dicter... Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que la seule manière dont l'universalité s'exprime pour Montesquieu, c'est sous le mode négatif. Il y a des choses... Vous voyez, tout ce qui porte, tout ce qui viole la nature humaine, tout ce qui lui porte atteinte, la torture, l'esclavage, etc., là, effectivement, est universellement mauvais. On peut dire en certitude ce qui est universellement mauvais, mais on ne peut pas a priori dire ce qui est bon universellement.
Vous voyez ? L'effet des religions, en particulier en France avec le protestantisme. Et
la question des religions.
Oui. Alors, il en parle ou pas ?
Bien sûr. Mais alors, il va en parler. Là, il va choquer. Il va choquer les ecclésiastiques, puisqu'il va parler de la religion, au fond, comme un fait social. Il va avoir une approche, on pourrait dire sociologique, si vous voulez. Vous voyez, une approche politique. Mais la question de la foi, il ne peut pas le dire, mais il est plutôt athée. Hein. Ouais. Ou en tout cas, le Dieu auquel il se réfère à Dieu. C'est le Dieu architecte, le Dieu que l'on conçoit par la raison. Bon, c'est pas le Dieu de la foi. Hein. Donc la religion n'apparaît que comme une sorte de facteur.
Oui, mais dans un même pays de la France, il y avait deux religions qui s'opposaient.
Alors, il s'intéresse à cette question de la tolérance.
Et qui devrait créer deux lois, des lois pour les...
Ah non, parce que c'est le politique qui doit avoir la main.
C'est la monarchie.
C'est le politique qui doit avoir la main. Là-dessus, c'est pas la religion, les religions qui peuvent dicter au pouvoir politique leurs lois. Par contre, le politique, il va falloir qu'il... Ben là, on ne peut pas encore entrer dans l'explication. Il va falloir qu'il sache, disons, utiliser les effets bénéfiques des religions. Oui. Il faut qu'il... Voilà. Mais parfois, les religions, elles peuvent jouer un rôle négatif. Alors donc là, il y a toute une réflexion sur la tolérance, si vous voulez. Mais là, encore une fois, sa réflexion est très fine. Très, très fine. Et c'est dans les livres 24, 25. Oui, bien sûr, c'est une question qu'il aborde. Bah oui. Et vous pensez bien qu'à son époque, l'intolérance religieuse est épouvantable. Vous le savez bien. Il s'intéresse. C'est même assez. C'est comique ça. Il y a même une explication parfois sociologique du type de religion. On a tel type de religion en tel pays en fonction du climat. comprenez bien que quand le Vatican lit ce genre de choses, ça peut pas bien passer. Hein. Alors évidemment, il insiste particulièrement là-dessus concernant les musulmans, mais parce que là, on peut, parce qu'ils sont loin. Mais comprenez bien que ce type de discours, ce type d'approche peut tout aussi bien être appliqué à d'autres religions comme la religion chrétienne. Vous voyez, donc voilà, vous avez ce genre d'approche. C'est Montesquieu. C'est vrai. Alors les religions, oui, elles cherchent un bien absolu. En politique, il ne peut pas y avoir un bien absolu. Dit Montesquieu.
Donc il faut voyager.
Alors, voyager pour faire l'expérience de la diversité. Et pour s'écarter, pour se libérer de ses préjugés. Parce que pour bien se connaître, quelle est la bonne manière? On croit se connaître, les hommes croient bien se connaître. En fait, ils ont des préjugés sur eux-mêmes. Pour bien se connaître, il faut d'abord connaître les autres.
C'est ça.
Il faut s'arracher à soi. C'est ça. Déjà, comme le montrent les lettres persanes. C'est-à-dire que vous ne pouvez bien connaître votre propre pays que parce que vous pouvez adopter sur lui le regard d'un étranger. C'est ça l'idée. Hein. Et donc, les hommes qui ne se connaissent pas sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre que la leur. Et considèrent comme fous tous ceux qui ont d'autres manières de vivre. Vous voyez ? Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, le texte termine, mais je n'ai pas eu le temps encore d'expliquer, mais ça, je reviendrai là-dessus, dit que la nature humaine, qu'est-ce que c'est que la nature humaine ? C'est la flexibilité. Qu'est-ce que c'est que la flexibilité ? C'est le fait de pouvoir changer. Et la flexibilité, c'est elle qui est à la source de la diversité des lois et des mœurs. C'est parce que l'homme est flexible qu'il peut varier selon les circonstances et devenir toutes sortes de choses en fonction des circonstances. Il n'y a pas une manière d'être humaine, unique. Mais ceux qui sont dans le préjugé, qui ne se connaissent pas, ils croient qu'ils ont une nature définitive, immuable, qu'ils sont ce qu'ils sont, qu'on est français, comme si être français, c'était au fond une essence éternelle. Vous voyez ? Ou espagnol, ou persan. Alors qu'il n'y a aucun mode d'être éternel. Les modes d'être sont tous, finalement, ont tous pour source la flexibilité humaine. Et au fond, qu'est-ce que veut dire instruire les hommes ? C'est leur montrer justement cette flexibilité. Et en leur montrant cette flexibilité, on les invite à faire retour sur eux-mêmes et à découvrir leur liberté. Parce qu'au fond, la flexibilité, c'est l'autre nom de la liberté. C'est ce qui fait qu'on peut changer, qu'on peut se modifier soi-même. Vous voyez ? Qu'on peut s'arracher à ce qu'on est, en tout cas à ce qu'on croit être. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Donc, tant que les hommes sont engoncés, enfermés dans un mode d'être qu'ils croient immuable, ils s'ignorent, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucune distance à l'égard de leur façon de vivre, de leurs mœurs, de leurs lois. Et si vous voulez changer les lois de votre pays, il faut être capable d'adopter un certain point de vue distancié à l'égard de ce qui existe. C'est ça l'idée. Vous voyez ? Oui, le texte est riche, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un texte magnifique et que vraiment Montesquieu donne à penser de façon prodigieuse. Hein. C'est un auteur moins pratiqué, moins lu que Rousseau, que Voltaire, pour la raison très simple qu'il explique lui-même. C'est que, voyez-vous, il pratique souvent l'ellipse. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, il est un peu déconcertant. Enfin, dans certains passages, il est assez déconcertant, puisqu'il n'explique pas tout. Hein, il saute les idées intermédiaires. C'est à vous de faire le boulot. Alors, bon, il y a un lecteur qui, lui, voudrait comprendre plus vite. Bah, il est un peu impatient, quoi. Il est énervé. Et Rousseau est beaucoup plus démonstratif. Alors, vous avez des passages vraiment très démonstratifs chez Montesquieu, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de ruptures, hein, dans son livre. Et puis ensuite, il se réfère à beaucoup de... Il y a une culture latine gigantesque, il y a beaucoup de références que nous ne maîtrisons pas, si vous voulez. Certains textes, bon, heureusement, on ne va pas tous les lire, ceux-là, sont truffés de références aux historiens, aux voyageurs. Enfin, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident pour le lecteur qui ne maîtrise pas tout ça, d'entrer dans sa lecture, vous voyez, de ce point de vue-là. Bon, enfin, c'est pas l'obstacle principal. Bon, vous avez tous entendu parler, au moins, de Montesquieu par rapport à quelques textes assez célèbres, l'Esclavage des Nègres, un texte fabuleux. Mais si on ne maîtrise pas l'ironie, on risque de le prendre, de le dire au pied de la lettre. Hein. C'est devenu un problème, hein, d'ailleurs.
Oui. C'est devenu un problème. Oui.
C'est devenu un problème. Question.
Est-ce qu'il fait la distinction entre les lois et les mœurs, parce qu'il part
oui. Oui, mais on aura l'occasion de préciser. Les lois, ce sont des lois édictées, instituées, voulues. Hein. Elles supposent une œuvre législatrice, quoi. Enfin, et les mœurs, ce sont des règles de conduite intériorisées. Hein, qui n'ont pas été décidées, instituées. Hein. Voilà, c'est la différence essentielle. Hein.
Oui ? Il dit aussi qu'il y a des liens entre les deux.
Il y a des liens, ah, mais évidemment. Et on ne peut pas réfléchir aux lois sans penser à leur articulation avec les mœurs. C'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas avoir en Montesquieu, je dirais, un auteur... un pur juriste. Et pour lui, si on lit Montesquieu, on ne peut pas considérer le droit comme une science autonome. On ne peut pas faire une faculté de droit. Alors, en tout cas, si on étudie le droit, il faut l'étudier en rapport avec ce qui n'est pas lui, avec les mœurs, avec la religion, avec... Vous voyez, l'esprit des lois. C'est-à-dire que l'esprit des lois, ce n'est pas un traité juridique. Il parle du droit, bien sûr. Il fait extrêmement attention au droit. Il s'intéresse beaucoup aux lois, à la législation des différents pays, mais toujours en la rapportant à ces autres facteurs que sont le régime politique, le climat, etc., etc.
Et aujourd'hui, les lois évoluent en fonction des mœurs qui elles-mêmes évoluent avec la technicité, technologie qui arrive.
Et c'est pour ça que quand Montesquieu parle de la nature des choses, ce n'est pas une notion immuable. La nature des choses implique une variation possible. Vous voyez ? C'est-à-dire que, bien sûr, bien sûr. Par exemple, on verra quand il s'agira de réfléchir sur le droit pénal. Montrera que c'est fonction de la sensibilité des hommes. La sensibilité des hommes, elle peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des peines, la peine de mort, par exemple, il ne raisonne pas, vous voyez, là-dessus, il diffère de tous ces penseurs qui condamnent absolument la peine de mort. Hein. Il n'y a pas une condamnation de principe. Mais lui, il ne raisonne pas comme ça. Il raisonne la peine de mort par rapport à la question des mœurs, justement, par rapport à la question au fond, de la situation politique d'un pays, etc., du régime politique. Vous voyez, c'est par rapport à tout ça qu'il réfléchit. Et il montre qu'au fond, la peine de mort, elle pourrait très bien un jour disparaître s'il y a une évolution de la sensibilité des hommes. Vous voyez, il parle comme ça. Bon, là, je dis de façon... forcément, ce que je vous dis, il faudra le lire de façon plus précise. Parce que, je pense qu'il va être l'heure. Donc je vous dis à très bientôt, le 3. Alors vous avez les bulletins d'adhésion.